Cuvertine, par exemple, c'est un mot, enfin, je l'adore ce mot. Quoi. Cuvertine. Et j'imagine qu'on ne prononce pas comme ça non plus, d'ailleurs. Je ne sais pas comment il est prononcé.
Cuvertine,
ici, enfin,
si c'est dur que cuvertine, bon. Ouais, pas ça.
Et alors, voilà, cuvertine. Je me disais, ça peut être exactement tout. Donc, tu vois, je commençais une liste dans ma description. Ça peut être un nom de ville. Bon, oui, c'est pas un nom d'oiseau. C'est un nom d'oiseau qui vient manger les fruits dans le jardin.
Ouais.
Donc, cuvertine, est-ce que ça décrit l'oiseau? Est-ce que ça décrit l'action? Est-ce que ça décrit la situation? C'est quoi ce mot, quoi? Mais bien avant, cuvertine, déjà, tu vois. Et donc, déjà, rien que ça. Donc, je le vois visuellement, j'ai envie de le turlupiner, quoi. J'ai envie de le faire tourner dans ma tête, ça marche. Puis après, il y a la soi-disant définition, en tout cas, la transcription de quelque chose, peut-être d'un souvenir aussi. Enfin, pour moi, c'était très fort, quoi, l'oiseau qui vient manger les fruits dans le jardin, pour moi, c'est un souvenir, beaucoup plus. Enfin, c'est l'idée vraiment de récit de quelque chose qui n'est plus, presque. Tu vois. Donc moi, ça m'invite à amener à une forme de nostalgie, voilà, par exemple chez Cuvertine, dans cet esprit-là. Parce que j'habite en ville, parce que je suis née à la campagne, parce que je ne sais plus ce que c'est vraiment qu'un oiseau qui vient manger des fruits dans le jardin. Voilà. Donc il y avait ce rapport-là, par exemple. Puis des mots comme la cage aux ours, ou quand je suis arrivée, bon, moi ça fait 12 ans que je suis à Bruxelles, je suis française aussi, moi je viens du 9-3, donc aussi...
2 ans ou 12 ans.
12 ans,
d'accord.
Donc moi je viens du 9 cubes, comme on dit, donc j'ai vraiment un rapport...
9 cubes
ouais. Le 9 cubes, c'est la Seine-Saint-Denis, hein, donc c'est là où on a mis tous les gens qui devaient vivre dans les usines, parce que justement le vent allait vers l'est, le vent de Paris venait vers l'est, donc on a mis toutes les usines dans la Seine-Saint-Denis, qui sont des marécages, hein, donc c'est intéressant.
Le 93.
Et maintenant, il y a Walt Disney.
Le 9-3 et tout. Mmh. Ah, ça, c'est le 77.
Ah non, c'est Val-de-Marne.
Ça, c'est 77. Non, c'est la Seine-et-Marne.
C'est la Seine-et-Marne.
Mais là, c'est intéressant aussi. Enfin, bon, du coup, il y a, dans ma classe, dans toutes mes classes, il y avait 95% de gens qui n'étaient pas français. Hein, je me remets le truc, ça. Enfin, tout ça pour dire quoi? Pour dire que la cage aux ours, par exemple, voilà, c'est une appellation qui n'a...
Qui n'était pas français de souche.
Oui, j'ai mis. Si tu regardes à quoi je ressemble clairement pas à, tu vois, à Marine, quoi, tu vois. Pour aller dans les clichés.
J'ai essayé de traduire en néerlandais belge de souche.
Français de souche, c'est fini. Hein, le mot a été. Auria Botelja, des indigènes de la République, a dit les Français de souche, on les appelle les souchiens. J'ai dit souchiens.
Ouais.
C'est vous qui dites le terme.
Tout à fait.
Alors, elle a eu un procès. Et au procès, ils ont dit, mais c'est le mot français de souche qui est raciste. L'image de la souche pour désigner celui qui appartiendrait donc plus, puisqu'il est au plus profond dans la terre, c'est un scandale. Donc c'est ça qui est raciste. Et c'est pas la réaction, évidemment, d'Ouria Boutelja, qui est juste provocante, un petit peu.
Puis on a tous, je crois, on est 80% de la population de toute l'Europe centrale qui vient de Genghis Khan, donc on est un peu dans la merde aussi au niveau génétique.
1 sur 7.
Oui. 1 sur 7, c'est ça, oui.
Sauf qu'on est très fort à une période où on essaye de marquer du doigt, j'irais, l'Européen qui est d'origine, j'irais, Afrique du Nord ou qui est de concession religieuse musulmane.
Ah oui, mais ça c'est
donc voilà,
chose.
Là c'est
mais
là.
Mais ça c'est autre chose. Effectivement. Enfin,
là c'est la grande recherche parce que les musulmans sont devenus le grand ennemi du 21e siècle. On a pris la place du communisme.
Voilà. Mais c'est curieux que cette histoire...
Il y a des musulmans communistes.
Oui.
Ça c'est grave. Attention.
Cette identité est en train de prendre une importance au point qu'on se pose des questions. Parfois, certaines personnes l'intériorisent et quand ils explicitent, vous vous dites mais vers où il veut aller. Hier, je suivais... Devoir d'enquête et on parlait voilà je ne sais pas enfin où il y a pour avoir connu ces gens parce que j'ai travaillé comme conseiller moral en prison et du coup j'étais intrigué par ce qui se passait notamment la personne qui a tué sa sœur et disait elle-même avant je me considérais comme belgo-pakistanais. Mais depuis un temps, tellement on a mis en exergue l'origine pakistanaise, il se sent maintenant comme pakistano-belge.
D'accord.
Voilà. Je ne voyais pas la plus-value, enfin, peut-être pour lui, ça signifiait beaucoup hein, ce qu'il disait. Mais pour l'avoir rencontré et parlé avec lui, J'étais dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que d'habitude, quand j'avais des entretiens comme conseiller moral avec lui, c'était pas comme ça, quoi. Mais et aujourd'hui, on en a discuté au travail. Je me dis, mais qu'est-ce que vous avez compris par là? J'étais belgo-pakistanais, hein, identifié comme belgo-pakistanais. Et depuis qu'il a commis ses crimes, il est devenu un pakistano-belge.
Parce que c'est le paki de la prison.
Oui.
Voilà, parce que c'est devenu le paki. Moi, j'ai fait l'armée. Moi, j'ai vraiment fait l'armée, la dernière année. Et il y a l'armée. Pourtant, pour faire l'armée, il faut être belge. Donc à l'armée, j'étais le Marocain. Oh, le Marocain! Moi, ouais, c'était mon surnom. Donc les identités sont là, elles te suivent, elles te suivent. Et c'est la définition qu'on en donne.
J'ai dit, il faut pouvoir se décrire. Au début, quand je faisais ma littérature, on me disait, vous êtes écrivain quoi, congolais, vous êtes écrivain belge. Oh, j'en finis enfin par avoir une définition. Je me considère comme écrivain belge, mais d'origine et de rationalité congolaise. Parce que sinon, je ne verrais pas comment j'expliquer à ces gens, je suis belge, je suis congolais, ça ne veut rien dire du tout d'abord pour moi. Et voilà, il a c'est fallu trouver une définition, donc ce pakistano-belge.
Et de rationalité, donc pas d'émotionnalité congolaise.
Ah, ah. Ça, c'est intéressant.
Pour être plus sérieux. C'est vrai. Ces artistes sont trop émotifs, trop sentimentaux.
C'est plus intellectuel.
Oui, oui, bah,
évidemment. Ah, mais c'est une observation intéressante, et pas l'émotionnalité. Ouais. Parce qu'il me semble que, ben, je ne sais pas, l'émotion revient et de nouveau valorisée. Avant, c'est quand tu étais. Je parle un peu de ce que Senghor a dit, l'émotion est noire,
l'émotion
est nègre, et la raison est hélène.
Voilà.
Oui.
Et comment?
La raison est occidentale. Occidentale.
Mais il ne voulait pas revenir à ça. Ouais. C'était
toute une... Bah, il n'a pas dit ça.
Il a dit ça, mais c'est, ça a été...
Il a écrit.
Ça a été extrait du contexte, et des gens, des coloniaux l'ont utilisé. Pour dire, vous voyez, il l'a dit lui-même. C'est plus compliqué chez Senghor. Il dit qu'il y a une forme de connaissance qui peut passer par l'émotion aussi. Ou encore, en l'occurrence, bon, il parle peut-être de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, etc. Tu vois. Par contre, cette phrase, elle a été prise par les colonialistes.
Ouais.
Pour dire, même Senghor le dit.
Okay.
Vous voyez, donc c'est vrai. La suite. Mais excuse-moi, je t'ai coupé.
Oui, non, mais c'est pour m'interroger. Ce n'était pas si innocent quand tu as dit la rationalité. Et
oui,
d'autant plus,
j'ai
apprécié son observation en disant l'émotionnalité.
Voilà. De rationalité. C'est.
Quoique, moi, je crois beaucoup à l'émotion.
Oui.
Moi, j'y crois. Le scientifique, il commence à avoir par une émotion. Le scientifique commence à avoir par une intuition.
Par un intérêt, même.
Voilà, une intuition d'abord, et puis après, ça devient scientifique. Mais sinon.
Il y a un mot qui est beaucoup utilisé, c'est le mot Roya.
Roya.
Mon frère.
Oui.
Donc en fait, c'est vraiment, c'est scarbécois, on ne peut plus scarbécois, Roya, tout le monde c'est Roya, tu vas voilà, partout. Et en fait, les Turcs sont arrivés aussi avec un mot. Un peu le parallèle de Roya. Non, pas Kardash, Abbé.
Abbé.
Ça va, Abbé? Ouais, ça va, tu vas bien? Ça va, et toi, Roya, ça va? Et en fait, c'est vraiment, ils sont arrivés avec ce mot.
Et donc, il y a ce mot. En soi, il faut bien Abbé.
Et donc, c'est...
En
fait, ce que je veux dire, c'est pour ça que j'ai regardé s'il était dans le dictionnaire, il n'y a pas le mot Abbé. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu as les mots communautaires comme ça, et puis d'un coup, parce que c'est vrai que quand on est dans le quartier, donc avec... tous les gars du quartier, donc à un moment tout le monde, turc et quelles que soient les origines, chacun c'est Roya, et d'un coup tu vois un turc arriver et dire ça va Abbé, ouais la forme, tu vois, et puis ça devient le mot aussi, et c'est vraiment devenu, quand tu rentres dans une épicerie ou un truc turc, c'est Abbé. Quand tu rentres dans un truc marocain, c'est Roya. Et même ça va même plus loin, parce que maintenant Roya est utilisé quasi partout.
Et pour les femmes,
sœurs. Roya. Roya. Mais c'est moins utilisé en fait pour les femmes. En fait, si on veut par exemple le mot abbé, donc. Ouais, mais c'est pas utilisé. C'est vraiment pas utilisé couramment comme on utiliserait Roya ou...
Moi j'entends beaucoup, c'est-à-dire deux mots. Et c'est pas seulement à Skarbek, c'est un peu partout maintenant, c'est devenu, c'est-à-dire ces deux mots pour toutes les communautés, pour toutes les civilisations. C'est le mot DH et le mot DM.
Ah ouais, DH.
DH,
c'est
la dernière
heure. Non, c'est Dunyahania. Dunyahania, ça veut dire tout va bien.
Ah oui.
Et alors DM. DM, c'est, ça veut dire Dunyamreta. Ça veut dire tout va mal. Donc, bon, ça peut représenter n'importe quoi et rien du tout. Bon, je viens, ah bonjour, ça va, oui, DH. Ou bien, ah bonjour, et alors, ah, DM. Bon, ou j'ai pas ma consomme, ou j'ai pas de cigarette, DM, ou je me suis fâché avec ma femme, ou DM. Donc tout ce qui est problème, tout ce qui ne va pas, c'est DM. Et alors, le contraire, c'est DH. Donc DH, tout ce qui va bien, je suis bien pété, ou bien je suis bien chez moi, ou bien dans ma peau, dans ma tête, ou j'ai un peu de thunes, ou DH.
Alors là, il manquait.
Et là, je l'ai entendu par des Belges, par des Turcs, par des Marocains, par... C'est international.
Il en manque un. L'autre, c'est Allah Aoun. Et donc, Allah Aoun, ça veut dire que Dieu te vienne en aide. Mais bon, ça, c'est en traduction littérale. Mais ça ne veut plus dire ça du tout. Ça veut dire à la revoyure. Allah Aoun. Et c'est utilisé par tout le monde. Je veux dire, tout le monde utilise Allah Aoun.
Moi, c'était trois mots comme ça qui revenaient. Inch'Allah. Hein?
Ouais.
Ou bien Amdoul. Amdoul.
Ouais, Alhamdoulilah.
Alhamdoulilah. Ousmal. Je vois ça ici. Smal.
Bismillah.
Oh, voilà. Voilà. Bismillah. Bismillah. Mais je n'avais jamais
réussi. Bismillah, ça veut dire au nom de Dieu.
Ah.
Au nom de Dieu. Alors, Inch'Allah, si Dieu le veut.
Ah.
Et qu'est-ce que tu as dit l'autre mot?
Alhamdoulilah.
Non, Alhamdoulilah, ça... Ah, merci à Dieu.
Ah, ok.
Et en fait, dans la traduction quartier, Bismillah, en gros. À chaque fois que tu dois commencer à faire quelque chose, à tes parents qui tapent sur le doigt pour dire tu dois dire bismillah, tu dois dire bismillah. Alors bismillah c'est pour tout.
Oui,
bismillah.
Oui, ben, c'est-à-dire dans la tradition, c'est-à-dire musulmane, c'est-à-dire si on va commencer à manger, on va dire bismillah au nom de Dieu. Si on veut égorger un mouton, on dit au nom de Dieu. Si on veut faire la prière, c'est au nom de Dieu. Si on veut se laver,
ouais.
Tout.
Donc on utilise
moi, c'est devenu avant de faire chaque acte on dit bismillah et puis l'autre mot alhamdoulillah en fait en gros ça c'est nos parents alhamdoulillah donc alhamdoulillah je vais bien alhamdoulillah en fait tu le balances en gros quand t'as pas envie de discuter. Ouais. Ça va, ouais, alhamdoulilah. Et tes parents, ouais, alhamdoulilah. Et t'as fait quoi à l'école? Ouais, alhamdoulilah. Tu vois, tu balances vraiment. Ouais.
Moi, l'impression que ça m'a laissé, c'était des mots passe-partout. Ouais. Sans qu'on. Enfin, maintenant, je découvre qu'il y a une connotation religieuse.
Oui, oui, oui. Et en fait, alhamdoulilah, c'est le. Alhamdoulilah, c'est les deux premiers mots du Coran.
Ouais, quand même.
Fatiha, surat al-Fatiha. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. C'est-à-dire merci à Dieu qui est le Dieu de toute l'humanité. Oui. Donc ce sont les deux premiers mots du Coran. Voilà. Alhamdoulilah.
Donc indirectement, la moitié de Skarbek dit
le Coran sans
le savoir, tu vois.
Skarbek a jamais dit, moi je
peux oui, partout. Je veux dire, voilà, c'est vrai, on parle de Skarbek, on parle quartier bruxellois.
Chicago, partout.
Mais les enfants l'utilisent quand ils ont voté.
Oui.
Donc normalement, c'est quand à la fin du repas, on remercie Dieu parce qu'on a bien mangé, quand on rote, c'est pour dire j'ai bien mangé. Mais les gamins maintenant qui rotent dans la cour de l'école, qui font des concours d'euros, qui n'ont plus rien à voir parce qu'ils ont bien mangé, ils rotent parce qu'ils ont envie de faire des concerts, ils disent
Alhamdoulilah.
Mais non, quand tu rotes normalement, c'est Astaghfirullah.
Mais là, ça veut dire la même chose.
Quand tu fais un renvoi.
Et si tu ne dis pas Astaghfirullah, tu te ramasses l'assiette en pleine gueule.
Oui. Même Alhamdoulilah à Jamal, tu peux dire même Alhamdoulilah parce que ça veut dire en quelque part tu es soulagé. Il y a du gaz qui est sorti du toit. Bon, c'est comme ça, hein, quoi. Parce que si tu restes avec cette boule-là, sais même pas respirer. Tu vois. Mais quand ça sort, où tu dis Sakharullah, c'est-à-dire je me plie à Dieu, et je m'excuse auprès de Dieu. Ou bien tu dis Alhamdulillah, ça veut dire je remercie Dieu.
Oui, parfois, oui, c'était pour remercier, c'était un mot passe-partout. Mais je dis,
mais comme tu dis vraiment, c'est le mot passe-partout. Oui. Nous, en tant que gamins, on disait ces mots. En gros, on pouvait roter à table que si on disait un mot comme ça. Donc pour nous, c'est comme si on disait pardon, tu vois. Ouais. Parce que tu n'as pas vraiment cette vraie signification. Et après, c'est un mot que tu utilises partout. Ça, ouais, ouais.
Mais je voudrais savoir quelque chose qui est dans le quartier ici. Je remarque que les jeunes congolais, ils ont un langage moitié français, moitié arabe, moitié.
Ouais.
Ça,
bah ouais.
Mais
ce que tu dis qui est génial, c'est qu'en fait, eux, c'est ce que j'essaie de montrer, accent pousse sur toutes les pousse sur le mot. Donc, par exemple, nous, on le dirait d'une manière très, très, très parlée, et eux, en fait, pousseraient sur le mot « roya ». Et en fait, ça donne un truc, tu vois, ça fait…
C'est mon fils.
Je crois que je vais y aller maintenant. Ils poussent vraiment, parce qu'eux poussent sur le mot.
Jamais le mot « drari » au cours.
Ouais.
Drari.
Oui, il y a oui, le mot drari, mais oui. Je crois qu'il est dans drari.
Ah, ok.
Non,
drari. Drari, ça veut dire les gamins ou, non, mais c'est ou les amis ou, les enfants ou tout ce que tu veux. C'est-à-dire une signification à peu près pareille. Quoi.
Et souvent, on voit des mots comme ça arabes, on se demande, mais à la maison, je les entends jamais. Je les entends jamais, mais entre eux, c'est une espèce de code.
Mais c'est le langage
eux.
De rue, quoi.
Et en fait,
ça
ne
dépend
pas des mots
de l'éducation qu'on a à la maison.
Une personne à la pote, c'est...
Oui.
Moi, je n'écoute plus. Oui.
Allez-y, jamais.
Après quoi?
Non,
après
j'ai déjà... Oui, oui. J'ai déjà vu.
Donc je disais que ce ne sont pas des mots arabes, en fait, ce sont des mots du quartier. Et en fait, c'est des mots que tu utilises dans le quartier, ce sont des mots passe-partout qui font en sorte que tu as une appartenance à tel endroit et à tel quartier. Par exemple, quand tu vas voir arriver un mec de Charleroi, il va parler différemment. Et tu vas tout de suite capter, tu vas dire « putain, c'est une... »
Mais il y a un accent de la banlieue parisienne qui est quand même arrivé ici.
Oui, la banlieue, oui.
Que moi je connais.
En fait, j'ai.
Je te jure, parce que moi, quand je t'entends parler, ou quand j'entends parler de certains gamins, etc., il y a typiquement l'accent bruxellois, machin, etc. Mais il y a des gamins, quand, par exemple, j'ai fait des ateliers à Molenbeek et tout, ils prennent l'accent. Je dis pas que c'est naturel, justement, je peux bien, ils copient, il y a un mimétisme. Et c'est clairement l'accent de banlieue parisien.
En fait, la différence, la seule différence, je dirais, la manière de parler, oui, mais la seule différence, c'est que dans les quartiers, en fait, j'ai de la famille, moi, dans le 95 et dans le 93, donc dans deux quartiers du côté de Paris. Et en fait, là-bas, ils n'utilisent pas, en fait, ils ont un rejet complètement sur la langue arabe.
Oui,
et, ils n'utilisent pas du tout les mots. En fait, ils parlent français, et ils ne mettront aucun mot, tu vois, comme s'il y avait cette.
C'est pas la même chose chez les Congolais, etc. Où là, au contraire, il y a plein. On dit tous Babtou, enfin, on dit tous Boudé, on dit tous. Il y a plein de mots de langue africaine.
Dans les hip-hop français, t'as plein de mots arabes dedans. Si tu prends la Fouine, si tu prends CFU, ils utilisent plein de mots arabes. Et ils sont. C'est des banlieusards à 300%.
C'est une manière de revendiquer quelque chose.
J'utilise, par exemple, par rapport à votre travail aussi qui est. C'est très intéressant ce que vous avez répondu sur l'histoire du dictionnaire. Moi, je suis un peu bête. Hein. Quand je vois dictionnaire, je cherche un dictionnaire. Mais c'est justement le fait que c'est une approche différente de cette notion-là. Qu'est-ce que sera un dictionnaire justement qui ne va pas capturer le papillon, on va dire, et qui va laisser les relations entre les mots que vous avez attrapés vivantes. C'est très intéressant.